Un livre dès la première page, je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre, oui, mais quel livre ? Aujourd'hui, avec l'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous conseiller, vous parler de nos coups de cœur et vous présenter les dernières nouveautés. Aujourd'hui, pas vraiment de thème. Pour Gwen, ce sera policier et moi, mes derniers coups de cœur. Bonjour Gwen, je te laisse la parole.
Bonjour, eh ben aujourd'hui on va parler polar un peu. On va parler polar avec deux séries et un one-shot. Alors une première série parce que c'est ma préférée, donc on va commencer par elle. Michel Honecker, l'agence Pinkerton. Alors l'agence Pinkerton, donc c'est chez Flammarion. Alors, l'agence Pinkerton, célèbre agence de détectives du Far West américain, va embaucher un jeune garçon, Neil Gaylor. Neil Gaylor, donc jeune homme avec un petit talent particulier. Un petit talent qu'on va découvrir au fur et à mesure des volumes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut lire le passé des objets. C'est-à-dire qu'il suffit de toucher un objet pour lire son passé. C'est un petit talent qui va pouvoir lui servir dans la série. Mais surtout, ce qui est très intéressant cette série, c'est que du coup, on va suivre donc, Neil Gaylor, agent stagiaire au départ, hein, qui va enquêter sur pas mal de crimes un peu étranges. Beaucoup de fantastique, du coup, dans cette série, un mélange de polar, de fantastique au Far West. Moi, je dis, il y a des pistolets, il y a de la magie, il y a des Indiens, il y a tout ce qu'on aime, il y a tout ce qu'on veut là-dedans, et sur 4 volumes, qui sont de mieux en mieux, d'ailleurs. Mieux en mieux.
Alors, pour moi, ce sera Bazmarou et la fille du vent de Maëlle Fierpied aux éditions École des loisirs. Alors, Bazmarou est un jeune garçon du peuple des hommes dauphins. Pour devenir un tanné, donc un homme dans sa langue, il doit effectuer un voyage initiatique. Ce voyage le porte dans un parc aquatique sur la côte des piétineurs. Les piétineurs, ce sont nous, les hommes qui polluons l'air et les océans, et donc l'habitat des hommes dauphins. Et c'est dans ce parc aquatique, alors qu'il est en pleine discussion avec les dauphins, Kairis va tenter de l'apercevoir et en tentant de le rencontrer, va se noyer. Bazmarou, donc, pour sauver Kairis, n'a d'autre choix que d'utiliser une pierre magique de son peuple qui va ressusciter la jeune fille, mais aussi la transformer en homme dauphin. Et donc elle va avoir des branchies, elle va pouvoir respirer sous l'eau, voir sous l'eau, nager correctement, sauf que voilà, la jeune fille n'a absolument pas du tout l'intention de rester un homme dauphin pour le restant de ses jours, et ils vont alors entreprendre à deux le voyage de retour de Bazmarou dans son peuple au milieu de l'océan. Donc Bazmarou et la fille du vent est un super roman d'aventure sur fond d'écologie pour les personnes qui aiment voilà, l'océan et qui est vraiment écrit de manière particulière, puisque vu qu'on a affaire à un peuple, Maëlle Fierpied a vraiment créé un vocabulaire pour ce peuple, et donc on a des mots qui sont parsemés dans tout le long du récit quand Bazmarou parle, avec une petite note, en fin de page qui va expliquer les mots, et du coup on est vraiment immergé dans le roman, et donc c'est une grande aventure avec un soupçon de romance aussi, comme toujours j'aime dans les romans.
Alors la deuxième série, c'est d'Hervé Jubert, Le Gang du Serpent, la série Vagabonde chez Rageux Thriller, une nouvelle collection de thrillers. Le deuxième titre fait aussi partie de cette collection. C'est une collection que j'apprécie sympathiquement, c'est des bons petits romans polars, voilà, très sympa. Donc cette série, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, l'histoire, c'est Billy Bird, 15 ans. Son père est voleur, mais pas voleur, pas le brigand de bas étage, hein, plutôt le Arsène Lupin, c'est-à-dire sans armes, il rentre et il sort. Donc Billy Bird est habitué à grandir avec ce père un peu, voilà, un peu différent quand même, voilà, quand même, il passe ses nuits dehors à espionner pour trouver les moyens d'entrer, couper les alarmes. Elle a quand même une éducation assez particulière. Jusqu'au jour où son père est kidnappé, justement, cette jeune fille, et on lui dit de ramener des statues du Zodiac, qui sont en quelque sorte des statues mystiques. On sait même pas au départ. On va le découvrir dans le deuxième volume, surtout, d'ailleurs. C'est une série sur 3 volumes. Et Billy Bird, n'ayant d'autre choix, finalement, décide de prendre le Volkswagen transporteur de son père planqué dans un coin. Son petit frère, qui s'appelle d'ailleurs Séraphin, 8 ans, décide d'aller voler pour récupérer son père. Elle va être aidée pour ça par Octave. Octave, un jeune homme qui loue un studio au nom de... C'est son père qui avait ça. Enfin, on sait pas trop, Octave. Il va les aider, mais on va découvrir qu'Octave, il a un secret. Qu'il n'est pas tout à fait étudiant, comme il le dit. Et il connaît bien la jeune fille et son frère et son père, par la même occasion. Donc ça, c'est un super roman, dans le sens où, pour une fois, on a un peu des anti-héros, quand même, puisque la jeune fille, c'est clairement une voleuse. Elle va vite devenir une très grande voleuse, d'ailleurs. Son petit frère est super fun, d'ailleurs. Lui, il a tout compris à la vie, ce petit gamin, de toute façon. Et on a quand même pas mal de suspense avec ce père kidnappé. Et Octave, quand même, on sait pas trop pour qui il bosse. S'il bosse du côté des méchants ou s'il y a peut-être un gentil, mais on n'est pas sûr. Dans ce cas-là, qui est le gentil et qui est le méchant?
Kelleana et l'assassineuse de Sarah Mass aux éditions de la Martinière Jeunesse. Pardon. Alors, dans le royaume d'Adarlan, Kelleana est la meilleure des assassineuses. Membre de la guilde des assassins, seule guilde qui ose encore s'opposer au roi, qui bannit la magie du royaume. Enfin, assassineuse, pas vraiment, puisqu'au début du roman, elle est enfermée dans les mines de sel, là où sont prisonniers tous les brigands et autres bandits du royaume, pour se tuer aux travaux forcés. Contre sa libération, Kelleana va avoir un pacte en fait, qui va lui être proposé par le prince d'Orient lui-même, prince du royaume, qui va lui proposer de le représenter à un tournoi qui se passera à la cité royale. Si elle arrive à vaincre, les autres prétendants, elle devra 4 ans de service au roi et puis ensuite la liberté. Donc, en train de se tuer à la tâche dans ses mines de sel, Kelleana accepte en se disant qu'elle arrivera bien à échapper à cette promesse. Mais quand elle arrive à la cité royale, les concurrents disparaissent les uns après les autres et une étrange magie obscure et maléfique refait surface. Pour ajouter à ces légers problèmes, le prince d'Orient et son capitaine Shaol ne sont pas insensibles au charme de la jeune fille, et elle non plus d'ailleurs. Donc Kelleana et l'assassineuse, c'est un roman d'héroïque fantasy pur. On a vraiment tous les ingrédients, la cité royale, les guildes, la magie, une héroïne forte et déterminée. Et c'est un très bon roman dans la veine héroïque qui plaira aux lectrices, je pense, plus facilement qu'aux lecteurs.
Et pour moi, le dernier, et à la fin, il n'en restera qu'un, c'est le cas de le dire, vu que c'est le dernier. C'est une réédition de Jean-Luc Luciani, donc auteur de polar jeunesse, surtout connu pour Brigade Sud Chirajo, mais là, c'est Chirajo Thriller. Alors ça, c'est le genre de roman que moi, j'aime bien, spécialement pour tous ceux qui ont vu Battle Royale, par exemple. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que nous sommes dans le futur, alors dans un futur pas tout à fait si lointain que ça, puisqu'il est domicilié en 2000 et des bananes, hein, tout va bien. Et la peine de mort a été rétablie pour les plus jeunes. En fait, suite à des vagues de crimes et des révolutions dans toute l'Europe et dans le monde en général, la peine de mort a été remise à jour pour les plus jeunes. Ça, c'est le pitch de départ. Et il y a des producteurs de télé-réalité, ils savent plus quoi faire depuis Love Story. Ils ont décidé d'inventer un nouveau concept. La cybertrack. C'est-à-dire qu'on choisit 10 jeunes qui vont être condamnés à mort, en fait. Et on leur dit, on va les mettre sur une île. Et chaque semaine, le public votera pour un jeune qui est éliminé. Dans ce cas-là, on mettra le jeune sur une île déserte un peu plus loin et on va lâcher des gens lambda, des gens comme vous, comme moi. Et leur mission, c'est de tuer ce jeune-là. Et s'il s'en sort, le jeune, il est jusqu'à minuit. Il faut qu'il tienne jusqu'à entre 8h et minuit, je crois, un truc comme ça. S'il tient, il a gagné une semaine de sursis dans l'île, quoi. Sinon, il meurt. Fin d'histoire. Donc c'est un nouveau jeu de télé-réalité, c'est sympa, c'est bon enfant au moins. On tue des gens. Mais bon, comme dans tout bon jeu de télé-réalité, il faut bien des règles qui soient détournées. Là, les jeunes ne sont pas d'accord pour se laisser faire, quand même. Donc après le deuxième ou troisième assassinat, quand même, ils vont se dire non. Et ils vont essayer de s'échapper. Et du coup, on va suivre un peu cette course-poursuite entre ces jeunes, donc condamnés à mort au départ, et cette émission de télé-réalité qui est horrible quand même, faut être honnête. Bah, du coup, c'est un roman qui est vachement intéressant parce que c'est le genre de roman qui est super sympa à lire, dans le sens déjà où on a une grosse, grosse action quand même. Et puis, on a surtout ce principe aussi que j'aime bien, c'est le principe éthique, qui est quelque chose que Richard Bachman, alias Stephen King, avait fait dans 2-3 romans, justement, où il avait inventé des séries de télé-réalité comme ça. Où s'arrête la télé et où commence la réalité. Et ben, ce roman prend un peu ce parti-là en mettant ces jeunes condamnés à mort sur dans une maison. C'est Koh-Lanta, quoi. C'est Koh-Lanta et Love Story ensemble, quoi. Sauf que là, en plus, c'est la mort, c'est sûr, à la fin. Donc voilà, c'est un très, très grand roman. Donc c'est une réédition de 2006, mais bon, peut-être peu de gens l'avaient lu. Donc profitez-en, jetez-vous dessus. C'est vraiment très, très intéressant.
Et le dernier roman pour aujourd'hui, Une saison avec Jane Esther de Shane Kassim aux éditions École des loisirs. Alors, pour ce roman, nous sommes en 1967, au bord du Mississippi. Eden, une jeune fille, vit avec sa tante et voue une admiration sans borne à Jane Esther, une poétesse originaire de sa ville. Au point, d'ailleurs, d'écrire elle aussi de la poésie. Donc ce roman, c'est la vie d'Eden sur quelques semaines. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il va se passer énormément de choses durant ces quelques semaines qui débutent avec la rencontre d'Eden et de la poétesse. Alors, on va parler de ses recherches en poésie, de ses tentatives d'écrire, sa sensibilité qui va être mise à l'épreuve durant ce laps de temps, de ses rencontres et de ses sentiments amoureux. Vraiment tout un cocktail de préadolescentes qui sont traitées avec beaucoup de charme, beaucoup de sensibilité. Donc tout ça à travers le filtre de la poésie qui est un sujet important du roman, puisque on alterne les paragraphes entre l'action qui est racontée, donc d'Eden, puis un paragraphe en fait où elle va tenter d'écrire sur ce qui vient de se produire, d'écrire sa sensibilité, d'écrire de la poésie. Donc on a deux visions de l'action qui sont vraiment très intéressantes et traitées de façon différente. Donc Une saison avec Jane Esther de Shane Kassim, c'est un très beau roman sur l'adolescence. Il y a une ambiance qui rappelle la littérature romantique, un peu comme les sœurs Brontë, des romans d'initiation, de passage à l'âge adulte. C'est un roman, c'est pas un roman d'action, c'est vraiment un roman d'initiation, de sensibilité, que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire un passage, un extrait, qui est en fait le premier rendez-vous de Eden avec Jane Esther, où elles vont parler poésie. Assieds-toi, Eden. Tu vois cette feuille près de la machine à écrire ? A-t-elle dit d'une voix plus rauque que celle claire et distincte de la conférence. Oui, madame. Ah non. Pitié, pas de courbette. Appelle-moi Jane Esther. J'ai hoché la tête, incapable d'articuler un mot. Bien. Ces feuilles, c'est ce que je dois jeter. Et je ne me résous pas à jeter. Non parce que je trouve ça trop mauvais, mais parce que ce n'est pas bon. J'ai pour règle de ne garder que ce qui m'a surprise, ce qui m'est venu presque malgré moi. J'appelle ça mon nécessaire à avancer. Ne m'embarquer dans l'aventure qu'avec le minimum. Sinon, c'est confortable, on est à la maison, au chaud avec soi, on ne voyage pas. Et ça ne vaut pas la peine. Autant rester couchée, ma pauvre. Allez, sois courageuse, Jane Esther, fiche-moi tout ça à la poubelle. Ma gorge s'est nouée. Je me suis sentie mal à l'aise. J'avais envie de partir. Elle se parlait à elle-même, et pourtant, j'avais l'impression qu'elle s'adressait à moi. Cette sensation confuse m'embrouillait l'esprit. J'ai fait un effort terrible pour ne pas quitter le siège où je m'étais assise du bout des fesses. Jane Esther s'est emparée de son petit tas de feuilles et les a fichues dans un seau. Elle a jeté une allumette dedans, et le feu a embrasé le papier. Pendant que je contemplais un bout de feuille calcinée qui dépassait, essayant enfin de déchiffrer un mot ou deux, elle a dit d'une voix très douce, très fatiguée. « Tu dois apprendre à jeter ce que tu as déjà, Eden. » Tu as le goût des mots, peut-être trop. Si bien que 1000 choses se précipitent à ta bouche et tu mets tout sur le papier, sans trier impitoyablement. Il est parfois inutile d'écrire nos fatras, nos découragements, nos mélancolies. À trop dire, on ne dit plus rien, on bavarde. Dans ce cas, ne te casse pas la tête, tiens un journal, tu pourras bavarder à ta guise. Je comprends, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, les livres s'achètent en librairie et s'empruntent en bibliothèque. La prochaine fois, ce sera Noël et on vous prépare une sélection spéciale Noël.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.